Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir Babette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
De nouvelles plaintes dans l'affaire du scandale des pizzas Buitoni et d'autres plaintes pourraient encore suivre.
On en parle avec maître Richard Legrand, avocat d'une dizaine de familles de victimes qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
Ce matin, une journaliste palestinienne a été tuée lors d'un assaut de l'armée israélienne. On a pu s'entretenir cet après-midi avec le directeur adjoint de la rédaction d'Al Jazeera. C'est cet homme qui a été le dernier à parler à Sourine Abou Akleh.
Et votre édito, Patrick?
La fête est finie, la Banque Centrale Européenne va arrêter de racheter de la dette publique et va bientôt remonter ses taux. Adieu l'argent facile.
Adieu l'argent facile. Qu'en pense le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo? Bonsoir.
Bonsoir, Anne-Elisabeth Lemoine.
Merci de votre présence ce soir. Alors que vous avez révélé aujourd'hui les chiffres de prévision de la croissance pour le deuxième trimestre. On y revient dans un instant en détail. Mathieu, dans le 5 sur 5.
La CNIL nous alerte, la Commission nationale informatique et liberté, sur le télétravail. Un mouchard dans votre clavier, une webcam allumée en permanence. Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter une surveillance sans limite quand vous télétravaillez. On va en parler.
Vous avez vérifié s'il y avait une caméra dans votre ordinateur ou pas?
Je serais bien incapable de la détecter.
Eh bien, j'ai des images, Mathieu. On les révèle dans un instant. Pierre, votre œil.
Todd Browning est un réalisateur qui a fait son chef-d'œuvre en 1932. Ça s'appelait Freaks, une histoire de personnages physiques monstrueux, mais qui se révèle beaucoup plus agréable que les gens dits normaux. Ce film est considéré aujourd'hui par un chef-d'œuvre par des gens comme David Cronenberg ou David Lynch. À l'époque, il a été hué et quasi mis en quarantaine. On racontera cette histoire.
David Cronenberg, qui est ce soir notre invité, puisqu'il fait son retour au cinéma et à la croisette, puisqu'il est en sélection officielle pour le 75e Festival de Cannes qui démarre mardi prochain. Absolument. Ce qui explique qu'à partir de demain, vous ne serez plus avec nous, Pierre.
Oui, parce qu'il faut que je finisse de repasser mes costumes.
Donc ça prend 3-4 jours quand même. Mais vous serez impeccable, comme d'habitude, pour ouvrir ce festival mardi prochain. Vous y serez tous les soirs en direct pour Absolument. C'est à vous. À 20h avec Mohamed Bouafsi, nos deux envoyés spéciaux pour C'est à vous à Cannes.
C'est chez nous aussi.
C'est l'heure de l'édito de Patrick Cohen. Patrick, le temps se couvre pour l'économie française.
Oui, le climat se dégrade à vue d'œil. Il n'a même déjà plus rien à voir avec ce qui se disait durant la campagne présidentielle. Je vous résume la salve d'indicateurs tombés ces derniers jours. Croissance au point mort, à peine au-dessus de zéro. Prévision convergente de l'INSEE et de la Banque de France. Et donc budget 2022 à revoir, puisque le gouvernement tablait sur 4% de croissance pour cette année. Accélération de la hausse des prix alimentaires, ce qui devrait porter l'inflation à plus de 5% fin juin en rythme annuel. À noter que sans le bouclier tarifaire sur l'énergie et la remise à la pompe, la hausse des prix dépasserait les 7%. Et malgré les nouvelles mesures à l'étude, notamment pour les gros rouleurs, une baisse moyenne du pouvoir d'achat paraît inéluctable pour cette année. Le plus dur est devant nous, a reconnu le toujours ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ajoutez à cela un déficit commercial de 31 milliards au premier trimestre, le deuxième plus mauvais résultat de notre histoire. Alors évidemment gonflé, plombé par nos importations d'énergie, mais le solde négatif 18 milliards sur les produits manufacturés montre que l'industrie française n'est toujours pas au niveau, en tout cas qu'elle est incapable de fournir ce que nous achetons aux Allemands ou aux Chinois.
Et hier, cri d'alarme de la Banque de France.
Et de son gouverneur, notre invité, qui nous dit que la fête est finie, que l'argent facile et qui coule à flot, c'est terminé, même si vous le dites prudemment et poliment, parce que c'est votre métier de parler avec prudence, monsieur le gouverneur. L'argent va être un peu moins facile, avez-vous dit, après cette période où, je vous cite encore, trop de Français ont considéré que la dette était devenue sans limite et sans coût, et où la dette publique française a bondi en deux ans de 100 à 113% du PIB. Ce matin, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a préparé le terrain. La BCE va mettre fin en juillet à ses achats d'actifs, ce qui veut dire que la France devra se financer ailleurs, bah comme avant, sur les marchés. Et dans la foulée, pour lutter contre l'inflation, la BCE relèvera ses taux d'intérêt, ce qui n'a pas été fait depuis 2011. Ce qui veut dire moins de marge pour l'État Père Noël. Vous l'avez rappelé hier aussi, 1% de hausse des taux, c'est au bout de 10 ans 40 milliards d'euros supplémentaires par an pour payer les intérêts.
Et dans ce contexte, Emmanuel Macron va remettre sur la table une réforme des retraites.
Sujet toujours aussi sensible et explosif, ce sera à coup sûr l'un des débats de ces législatives. Et vous entendrez à nouveau les opposants au passage à 65 ans nous dire qu'il n'y a pas de problème de financement, qu'il n'y a pas de nécessité financière à faire cette réforme et que c'est inscrit dans le dernier rapport du COR, le comité d'orientation des retraites. Alors c'est vrai, on l'a dit ici, avec l'allongement programmé de la durée des cotisations, la réforme Touraine, le COR prévoit une quasi-disparition des déficits à partir des années 2030. Trajectoire maîtrisée et système financé, pas d'urgence. Mais voilà qu'un papier paru il y a quelques semaines dans la revue Commentaire et signé par quelques hauts fonctionnaires anonymes, enfin sous pseudonyme en tout cas, est venu mettre le bazar en pointant une sorte d'oubli ou d'erreur de calcul. C'est que le COR ne compte pas les subventions d'équilibre versées par l'État. Qu'est-ce eh ben, c'est ce qui permet de payer les retraites des fonctionnaires. Régime très déséquilibré pour lequel l'État paye des cotisations à hauteur de 74% du salaire brut de chaque fonctionnaire, là où dans le privé, l'entreprise paye 16%. Résultat, si on prend en compte toutes ces subventions, le déficit réel du système dans son ensemble n'est plus de 19 milliards, mais deux fois plus, environ 40 milliards d'euros annuels. Il y a là largement de quoi relancer le débat.
La fête est finie, monsieur le gouverneur ?
Je vais reprendre peut-être le tableau de Patrick Cohen et mettre des couleurs parfois un peu moins sombres. Mais il y a des vrais points d'attention. Et de toute façon, tout ça part d'une situation très difficile qui est née de la guerre en Ukraine. Mmh. Et ça, dès le premier jour, nous avions dit cette guerre, c'est vraiment horrible sur le plan humain. Je crois qu'il s'y joue des enjeux de liberté, de démocratie très forts. C'est des très mauvaises nouvelles pour l'économie russe d'abord, mais c'est des mauvaises nouvelles pour l'économie européenne. Et on savait depuis le début que la guerre en Ukraine, ça veut dire moins de croissance, plus d'inflation et beaucoup plus d'incertitudes. Alors, il se trouve que nous avons fait une enquête qu'on a publiée ce matin auprès de 8500 entrepreneurs. Je crois que ça donne le meilleur thermomètre aujourd'hui. C'est là que je vais rebondir sur quelques-uns des points de Patrick Cohen. Je dirais que d'abord, aujourd'hui, les incertitudes commencent à diminuer, ce que nous disent les chefs d'entreprise. Et donc, on a une photographie un peu plus précise des effets sur la croissance et sur l'inflation.
Du conflit ukrainien.
Voilà. Et où en est l'économie française, effectivement, aujourd'hui ? Parce que c'est une question que tout le monde se pose. Moi, j'aurais tendance à résumer en disant qu'il y a une relativement bonne nouvelle. C'est quand même que l'activité résiste et que l'économie française est assez résiliente au choc. Je vais y revenir. Et puis, il y a une grosse préoccupation, c'est l'inflation. D'où, effectivement, le fait que nous allons progressivement relever les taux d'intérêt. Mais est-ce que je peux dire un petit mot sur l'activité ? Parce que c'est là que je crois que les couleurs peuvent être plus contrastées. Et nous, Français, nous sommes souvent les champions pour voir ce qui ne va pas. Il faut aussi voir ce qui va bien ou moins mal. Hein. Nous avons dit qu'effectivement, au deuxième trimestre, il y aurait une croissance modérée mais positive de 0,2%.
Alors, quand on regarde, loin du zéro, quand
oui,
même.
Oui, mais alors, c'est là que c'est important quand on regarde sur l'ensemble de l'année, parce qu'il y avait une vitesse acquise forte hein, de l'économie
l'an
française.
L'an dernier, c'était 7%.
Alors, d'abord, c'était 7% l'an dernier. Et sur l'ensemble de l'année 2022, la dernière prévision que nous avions faite au mois de mars, c'était 2,8. Alors, je ne redonne pas de prévision aujourd'hui, parce que nous publierons ça au mois de juin. Mais vous voyez qu'on est quand même assez nettement au-dessus des zéros dont vous parliez. Et quand on regarde secteur par secteur, il y a de plus ou moins bonnes nouvelles. C'est intéressant de voir que c'est souvent l'inverse du Covid. Vous vous souvenez, au moment du Covid, c'est les services qui souffraient énormément, dont le tourisme. Aujourd'hui,
et
il se
l'aéronautique.
Et l'aéronautique.
Et ils se portent mieux.
Exactement. Et ces deux secteurs, aujourd'hui, vont beaucoup mieux.
En revanche.
À l'inverse, des secteurs industriels qui avaient plutôt bien traversé la crise Covid, l'automobile, la chimie, l'industrie alimentaire, aujourd'hui souffrent beaucoup de difficultés d'approvisionnement. Voilà. C'est en gros ça l'image, mais c'est quand même une certaine résilience de l'économie française et au passage de l'emploi. Hein, les chiffres de chômage en France et en Europe restent les plus bas qu'on ait eu depuis 20 ans.
Mais vous avez oublié le principal point noir qui doit quand même être au centre de vos préoccupations, les comptes publics.
Alors, on va commencer par l'inflation, si vous voulez. Et oui, là, parce que c'est notre première responsabilité.
Mais les comptes publics, on va en parler. Plus 4,8% en avril, voilà, et c'est pas fini.
Ça, je crois que c'est la première préoccupation des entrepreneurs, parce que quand ils ont des difficultés d'approvisionnement, ils doivent payer plus cher, et du coup, ils augmentent leurs prix, notamment les entrepreneurs de l'industrie et du bâtiment. Et puis, ça se voit pour les Français, on est autour de 5% d'inflation. Les Français le sentent dans leurs achats, pas seulement à la pompe, ils le sentent dans l'alimentation, ils le sentent dans l'achat de certains biens. C'est plus difficile pour les Français les plus défavorisés ou pour ceux, par exemple, qui habitent en milieu rural et qui roulent davantage. Voilà, donc ça, c'est une réalité qui frappe les Français et dont il faut s'occuper activement. Alors ça, c'est notre responsabilité, c'est la lutte contre l'inflation.
Comment ?
Alors, ce que je veux dire ce soir, c'est que d'abord, notre prévision, mais c'est plus que notre prévision, c'est notre engagement, c'est de ramener l'inflation, qui est donc aujourd'hui autour de 5% en France, un peu plus de 7% en Europe. Au passage, l'inflation en France, autre relativement bonne nouvelle, est moins forte qu'en Europe.
Grâce au bouclier, oui.
Oui, mais le bouclier, il est efficace. Il faut ramener cette inflation autour de 2% dans les deux ans qui viennent, c'est-à-dire d'ici 2024. Et ça, Anne-Elisabeth Lemoine, c'est un engagement qu'avec Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne, je prends ce soir. Hein. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il va y avoir, à compter probablement du début de l'an prochain, une baisse naturelle qui va se produire avec l'effacement de la hausse de l'énergie, etc. Mais surtout, et c'est ce qu'on disait à propos de ce que nous appelons la politique monétaire, pardon de ce mot un peu technique, mais ça c'est notre métier, c'est des réglages très fins, un peu complexes, que nous faisons pour faire baisser l'inflation sans pénaliser trop l'activité. Donc effectivement, ça veut dire que l'argent sera moins facile.
Plus cher, ça sera plus compliqué.
Et que les taux d'intérêt vont monter très progressivement. Oui, mais il faut se rappeler d'où on part. Parce que vous le disiez à propos de la dette publique. Souvenez-vous que toutes ces dernières années, on avait des taux d'intérêt pratiquement à zéro. On avait même cette chose étonnante, qui était que nos concitoyens ne comprenaient pas bien, c'est des taux négatifs. C'est-à-dire quand on prêtait à l'État français, les prêteurs payaient de l'argent pour prêter à la France. Ça, c'est fini. Et pourquoi est-ce qu'on avait tout ça ? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas assez d'inflation. Donc il faut d'abord lever le pied de l'accélérateur et puis remonter très progressivement les taux d'intérêt. Mais ça restera très favorable. Hein. Si je prends le crédit immobilier, voilà, il est aujourd'hui, qui touche beaucoup de Français, la moyenne du crédit immobilier est aujourd'hui entre 1 et 1,5%. Bien sûr, ça dépend des situations. On n'avait jamais vu ça. Hein. C'est très important de dire d'ailleurs que là, la France a un avantage, c'est que les emprunts immobiliers sont à taux fixe. C'est-à-dire pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont un crédit immobilier aujourd'hui, ils ne seront pas touchés par la hausse des taux. Dans la plupart des autres pays européens et aux États-Unis, c'est des taux variables. Quand les taux remontent, leur facture mensuelle, leur mensualité
augmente. Mais il va rester possible d'emprunter. L'argent ne va pas venir trop cher.
Il va bien sûr.
C'est-à-dire qu'au maximum, l'augmentation des taux d'intérêt pourra aller jusqu'où ?
Je ne vais pas vous dire jusqu'où ça ira, parce qu'encore une fois, nous ferons ce qu'il faut pour ramener l'inflation à 2%. C'est la préoccupation numéro un des Français. Et il se trouve que c'est en plus notre mission, notre responsabilité. Mais quand on regarde les taux du crédit immobilier dans le passé, si on regarde en 2015, par exemple, c'est pas si vieux, on était autour de 2%. Si on regarde en 2010, on était à 3% ou plus. Et à chaque fois, on pouvait emprunter. Hein. Ces taux remonteront, mais resteront favorables. Et quand on regarde cette fameuse politique monétaire, on a tendance à penser, mais l'inflation, c'est complètement nouveau. Quand on regarde dans l'histoire, on a eu des épisodes comme ça. Et à ce moment-là, la normalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire le fait de remonter progressivement les taux d'intérêt, a été efficace. Toujours en 1 à 2 ans. Hein. C'est pour ça que je me situe horizon 2 ans. Pour vous citer des exemples, ça a été le cas après 2005 en Europe. Si je regarde un autre épisode plus lointain, dans les années 90 aux États-Unis. Donc on sait ce qu'il faut faire. Après, c'est une question de réglage, je le dis un peu fin, mais que nous allons pratiquer. Je crois que c'est un engagement très important pour les Français.
Qu'on entend, mais ça prend 2 ans.
Et ça risque d'être un peu long pour les ménages les plus modestes, alors, vous les avez évoqués, qui souvent, le 10 du mois, comptent euro par euro. Et je voulais vous montrer juste un court reportage où on voit que certains utilisent déjà les prêts sur gage pour réussir à finir le mois.
Mais je dépose uniquement pour payer des factures et de quoi me nourrir parce que c'est tellement compliqué. Là, c'est une facture de 323 euros que je dois payer. J'ai 2 enfants en charge, c'est compliqué, tout est cher, on ne s'en sort pas.
En échange de 30 grammes d'or, elle reçoit 670 euros qu'elle aura 6 mois pour rembourser.
Si on met 50 euros, 20 euros de côté, on arrive un peu, après, dans les 6 mois, on arrive à diminuer la somme. J'ai fait ça pour, premièrement, pour acheter la voiture et pour acheter les meubles pour la chambre des enfants.
Là, on voit évidemment des ménages qui on ne peut pas juste conseiller la patience, il va falloir les accompagner. Mais la solution, vous allez sans doute me dire qu'elle n'est pas, comme le propose par exemple Jean-Luc Mélenchon, dans le blocage des prix.
D'abord, il y a des situations de détresse. J'ai parlé tout à l'heure des situations difficiles. Et je n'ai pas conseillé aux Français la patience, Pierre Lescure. Je dis simplement que nous ferons ce qu'il faut pour qu'en 1 à 2 ans, l'inflation d'abord se réduise et revienne à 2%. Mais entre-temps, il y a bien sûr des mesures pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et notamment les plus défavorisés. Alors, on a parlé du bouclier tarifaire, il y a eu le chèque inflation, il y a un chèque alimentation qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement. Et puis, il y a une mesure très importante, c'est la revalorisation du SMIC. La dernière est intervenue le 1er mai, et au total, ça fait 6% d'augmentation du SMIC depuis un an. Donc, vous voyez, plus que l'inflation. Donc il y a des mesures qui sont prises pour le pouvoir d'achat, il y a par ailleurs des négociations salariales dans toutes les entreprises, il y en aura dans la fonction publique, mais l'important pour sortir de ça, c'est vraiment de faire baisser l'inflation et de la ramener à 2%. C'est ça, encore une fois, ce que nous ferons et que je dis, je crois, extrêmement fortement ce soir.
Et très clairement.
Vous parlez de l'importance d'indexer le SMIC sur l'inflation. Il y a aussi cette proposition, d'ailleurs, qui a été faite par une majorité de candidats à la présidentielle, c'était l'augmentation des salaires en général. La question a été posée ce matin à Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis Groupe sur France Info, et sa réponse est assez tranchée.
Il faut que les entreprises, quand elles font des profits, distribuent davantage. C'est ce que nous avons fait, et nous avons distribué à tous nos salariés qui n'avaient pas de bonus ou qui n'avaient pas de système de rémunération variable, un complément de prime. Le problème, c'est que quand vous commencez à indexer les salaires sur l'inflation, l'effet immédiat, c'est d'augmenter l'inflation. Et la demande augmente, et donc les prix augmentent.
Donc on augmente le SMIC, mais pas les salaires.
Alors, je crois que votre question est tout à fait importante. Dans la loi française, le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum, qui concerne entre 10 et 15% des salariés, est indexé sur l'inflation pour en protéger le pouvoir d'achat. Par contre, il n'y a pas d'indexation pour les autres salaires, pour la raison que Maurice Lévy disait dans le reportage, c'est que ça produit toujours. Hein, on a connu ça, ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. C'est-à-dire les augmentations de salaire sont bouffées, si vous me permettez l'expression, dans les mois qui suivent par le supplément d'inflation. Et tout le monde est perdant. Alors, sur les salaires, ce n'est pas à moi de dire aux entreprises ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut que la négociation reste décentralisée, au plus près de la réalité économique et du dialogue social. Mais il y a évidemment des augmentations salariales dans l'économie française et européenne.
Patrick, la dette, vous en parlez dans votre édito, et le gouverneur François Villeroy de Gallo n'a pas répondu encore sur la dette publique française, dont on a très peu parlé.
C'est parce que Patrick Cohen a dit beaucoup de choses dans son édito.
113% du PIB, il faut revenir à 100%. À quelle échéance ?
Alors, je crois que sur la dette, là aussi, il faut essayer de regarder l'histoire longue. On était à moins de 100% avant le Covid et on a pris 15 points, en gros 15%. Et ça, c'était le quoi qu'il en coûte. Et je le dis, ce n'est pas très habituel dans la bouche d'un gouverneur de la Banque de France. Ça, c'était justifié. Je crois qu'il fallait éviter l'effondrement économique et social. Et ça a été efficace. D'ailleurs, le rebond en France, vous parliez des 7% tout à l'heure, a été plus fort que chez nos voisins européens. Maintenant, on est sorti du Covid. Et par ailleurs, à l'époque, les taux d'intérêt étaient zéro. Je l'ai dit, ils vont augmenter progressivement.
Donc la fête est finie.
Donc ce que... La fête est finie, je crois que c'était pas une fête, c'était quelque chose qui pouvait être justifié par des circonstances exceptionnelles.
Et dramatiques.
La fête, vous savez, ça n'existe pas en économie. Il y a des solutions, il y a du travail, mais il n'y a pas de miracle. Et heureusement, si la France peut s'offrir toute une série de choses.
C'est ce que vous avez semblé dire hier, quand vous disiez les Français
Je n'ai pas employé cette expression. Non, d'ailleurs, vous m'avez cité, si je me souviens bien, ce que j'ai dit, c'est que beaucoup de nos concitoyens considèrent, et on peut les comprendre, qu'on a trouvé des centaines de milliards pour le Covid, pourquoi est-ce que maintenant on ferait des économies ?
Trop de Français ont considéré que la dette était devenue sans limite et sans coût.
Oui, ou considèrent de bonne foi. Je suis à peu près sûr de ma citation,
mais nous n'allons pas nous battre à coups de citations littéraires.
Mais pourquoi ? Parce que c'était la réalité au moment du Covid. L'inflation était très basse, donc il fallait des taux d'intérêt très bas. Et puis tout le monde empruntait de par le monde, parce que le Covid touchait tout le monde. Aujourd'hui, le Covid, c'est fini et nous sommes jugés par ceux qui nous prêtent en comparaison aux autres pays. Et si on fait beaucoup plus de dettes que les autres, on va payer beaucoup plus cher. Donc ce que je crois qu'il faut simplement dire là-dessus, c'est qu'il faut donner du temps. Ce que j'ai proposé, mais ça relèvera du débat démocratique, et ça nous paraît faisable, c'est que d'ici 10 ans, on revienne sous ces 100%, on revienne sous le niveau pré-Covid.
Et ça, 10 ans.
Et ça, ça passe. Alors, 10 ans, simplement, il ne faut pas attendre la 10e année pour commencer à s'y atteler. Ça passe par plus de croissance dans l'économie française. Je crois que c'est possible une fois passé le choc Ukraine, et il faut un certain nombre de réformes pour cela, dont la réforme totalement prioritaire de l'éducation, de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Et puis, il faut une meilleure efficacité des dépenses publiques. Moi, je crois profondément au modèle social européen. Simplement, le petit défi que nous avons, nous, Français, c'est que nous avons à peu près les mêmes services publics, la même sécurité sociale que nos voisins européens, mais ça nous coûte nettement plus cher. Ça nous coûte 10% de plus que l'Allemagne ou que la Belgique ou les Pays-Bas, qui sont des pays assez proches de nous. Donc, il ne s'agit pas de faire baisser les dépenses publiques, pas d'avoir une austérité sauvage, mais est-ce qu'on peut les augmenter moins? Et si on passe, ce que j'ai évoqué hier, à 0,5% par an d'augmentation, après inflation, hein, donc c'est une augmentation en volume, à ce moment-là, on peut effectivement descendre sous 100% de PIB. Je ne dis pas que c'est des choix faciles, mais c'est des choix possibles. Si vous me permettez de prendre un exemple modeste, à la Banque de France, les hommes et les femmes de la Banque de France se sont organisés pour travailler de mieux en mieux. On rend plus de services, on a maintenu notre présence territoriale et nous avons diminué nos coûts ou augmenté ce que nous rapportions aux contribuables. Donc, je crois qu'il faut qu'on puisse travailler en ce sens, surtout, si vous me permettez un dernier mot, si nous voulons pouvoir financer un certain nombre de dépenses nouvelles, parce qu'il va y avoir la transition écologique, il va y avoir les investissements numériques, peut-être des investissements supplémentaires dans la défense. Voilà, il y a une nouvelle donne. Donc, il faut qu'on essaie d'être le plus efficace possible sur les dépenses courantes. En tout cas, moi, je crois au modèle social français et européen, je crois aux services publics, et il faut travailler dans ce sens si on veut assurer la pérennité.
Et s'appuyer et avoir comme modèle le fonctionnement quotidien de la Banque de France.
Je n'ai pas dit ça, Elisabeth Lemoine. Je l'ai juste cité comme un motif d'espoir. Encore une fois, je crois qu'il faut qu'on soit très vigilant. Il faut qu'on soit très vigilant sur les difficultés et qu'on dise la vérité à nos concitoyens. Mais nous sommes aussi un pays avec des formidables ressources, des qualifications, des Français qui ont été engagés dans la crise Covid, qui aujourd'hui sont résilients dans la crise ukrainienne. On ne va pas désespérer de notre pays. Moi, j'y crois, en tout cas.
Merci François Villeroy de Gallo d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez encore avec nous quelques minutes. Et après, je vous libère.
Après, je retourne travailler contre l'inflation.
Ah oui, alors surtout, je vous libère pour aller travailler contre l'inflation. Mais je vous offre quelques minutes, le temps d'écouter la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, la disparition d'une journaliste d'Al Jazeera.
Oui, regardez ces images. C'était il y a quelques heures, des milliers de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, des femmes et des hommes qui pleurent la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh. Cette Palestinienne, qui avait aussi la nationalité américaine, a été tuée dans un échange de tirs à Jenin lors d'un assaut de l'armée israélienne. Nous avons fait le choix de flouter ces images, mais on distingue très clairement le gilet pare-balles avec le sigle presse que portait Shirin Abu Akleh. Mohamed Mouad est le directeur adjoint de la rédaction d'Al Jazeera. C'est lui qui a échangé en dernier avec la journaliste de 51 ans. Nous avons pu le joindre il y a quelques minutes.
Shirin emailed us minutes after 6 a.m. She said that I'm heading now to Jenin. There is an Israeli raid. I'm going to cover the story. Minutes, I'll be available for a DTL, for an on-air engagement. Shireen was standing, preparing for a DTL, and then she was targeted. She was shot by a bullet that was, you know, targeted her head. We consider this an intentional act. It's an assassination. To have a journalist being targeted like this means that they have to be held accountable.
Shirin Abu Akleh était l'une des plus célèbres reporters de Al Jazeera. Depuis 1996, elle couvrait tous les théâtres de guerre pour la chaîne Panarabe et notamment le regain de tension depuis un mois entre le Hamas et Israël. Ce matin, Al Jazeera a interrompu ses programmes pour annoncer son décès.
We're bringing you the news that a journalist for Al Jazeera Network, our correspondent Shirin Abu Akleh, has been shot in the face and has died shortly afterwards. I want to ask you, first of all, how you and the team are reacting.
The colleagues of Shirin are gathering. There are journalists also here coming. I think the pictures are speaking for themselves, right, Rob? People here have lived with her. You know, these teams go on long coverages, they spend days and days in the field, so they are like one family.
Quelques heures après la mort de la journaliste, des témoins et le ministère de la Santé palestinien ont annoncé que l'armée israélienne était à l'origine des tirs pour la chaîne arabe. Il n'y a pas de doute non plus, c'est un assassinat.
وتحمل قناة الجزيرة المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية على هذه الجريمة التي تمت بدم بارد. تؤكد الجزيرة أنها سترفع وستلاحق المجرمين الذين كانوا أساسا لهذه العملية وستسعى لملاحقتهم في المحافل الدولية.
Version bien évidemment contestée par le gouvernement israélien qui propose sa version des faits.
Free press is fundamental for Israel and for all democracies, and as such, journalists must be protected. There are indications that Ms. Abu Akleh was killed by Palestinian terrorists' fire. Israel will be conducting a thorough investigation. We call on the Palestinian Authority to cooperate with this investigation in order to get to the truth.
L'Union européenne a exigé que les responsables du meurtre de la journaliste soient traduits devant la justice. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis demandent, eux, l'ouverture d'une enquête internationale indépendante.
Merci beaucoup, Mohamed, pour cette story. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur de la Banque de France, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Émilie, une nouvelle plainte dans le scandale Buitoni.
Oui, celle des parents de Tyler, dans le nord de la France, début février, pour son anniversaire. Le petit garçon de 3 ans mange plusieurs parts d'une pizza Fresh Up de Buitoni et il a bien failli mourir.
C'est dur parce que ils nous disent que... On nous dit que... il est dans un état grave, que ses reins ne fonctionnent plus et que là, il faut empêcher la crise cardiaque puisque du coup, son taux de potassium était très élevé. Son avenir, il est incertain puisque peut-être que dans quelques années, il aura des problèmes de santé par rapport à ses reins. Et aujourd'hui, on doit pour lui s'assurer qu'il aura un avenir. On veut des réponses, on veut savoir ce qui s'est passé, pourquoi on en est là.
Pour sauver son cœur, ses poumons, son cerveau, Tyler a dû être placé en réanimation. Il a aussi suivi plusieurs dialyses pour préserver ses reins. Pour le moment, car en effet, comme sa maman le dit, il est possible qu'il ait des séquelles plus tard. D'autres, en revanche, n'ont pas survécu depuis le début de ce scandale sanitaire. Et selon les derniers chiffres de Santé publique France, 2 enfants sont décédés. Les enfants qui sont les plus touchés d'ailleurs, 55 sur les 56 cas recensés, âge médian 6 ans. Pour la majorité, les symptômes sont très graves, diarrhée, vomissement, oui, mais impossible aussi de manger, même de se tenir debout. Certains se tordaient de douleur, criaient à leurs parents qu'ils allaient mourir. Derrière ces cas, autant de familles qui ont vu ensuite les images de l'usine Buitoni, comme tout le monde, images qui ont provoqué l'indignation générale, y compris celle du spécialiste des reins, le professeur Gilbert Deray. C'était sur notre plateau.
On a du mal à imaginer qu'une chaîne de fabrication d'aliments puisse être dans un tel état. C'est juste effrayant. Et la question que je me suis posée en entendant ça dans la journée, c'est de savoir quels sont les contrôles qui sont faits, et on en parlait un peu avant. Alors moi, je vais vous dire, avant de vous en parler, j'étais convaincu que dans des chaînes alimentaires de cette nature, il y avait des contrôles obligatoires, indépendants, extérieurs.
Depuis, plus de 35 familles ont porté plainte contre Buitoni et Nestlé, propriétaires de la marque, pour blessures involontaires, et d'autres plaintes pourraient suivre.
Bonsoir, maître Richard Legrand.
Bonsoir.
Vous défendez une quinzaine de familles dans cette affaire Buitoni, dont les enfants ont été contaminés, ont tous fait des séjours à l'hôpital, et pour certains, ont des séquelles irréversibles.
Oui, tout à fait. Nous avons de nombreux cas qui sont déclarés durant les semaines passées. Ce sont des personnes qui, malheureusement, ont été contaminées suite à la consommation de pizza de la marque Buitoni.
Avec quelles séquelles irréversibles ?
Alors, on a des séquelles irréversibles. Ce sont surtout des reins qui sont touchés, les reins des enfants. Alors, c'est surtout des enfants qui ont malheureusement eu des séquelles extrêmement graves. Il ne faut pas oublier certains adultes aussi, surtout les adultes à risque. Mais c'est majoritairement des enfants qui sont retrouvés...
Dans le fonctionnement rénal est définitivement
Parfois définitivement atteint. Et malheureusement, on a eu aussi deux décès parmi toutes les victimes.
Les parents de ces victimes sont toujours dans la sidération d'avoir vu leur vie et celle de leurs enfants basculer en mangeant une pizza, des vies brisées, mises en pause dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que la vie s'est arrêtée pour ces familles.
Oui, effectivement, la vie s'est arrêtée pour de nombreuses familles, pour des parents, pour les proches aussi. Des enfants hospitalisés ont malheureusement besoin de leurs parents à leur chevet. Ce sont des parents qui ont dû parfois arrêter de travailler, mettre en pause leur carrière et, pour s'occuper de leurs enfants qui sont malheureusement parfois dans un état extrêmement grave.
La question à laquelle vos clients veulent une réponse et que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que c'est possible en 2022 ? Vous avez des débuts de réponse sur l'origine de cette bactérie ? Comment est-ce qu'elle a été transmise à des produits consommés et distribués en supermarché ?
Alors, cette origine est sûrement due, probablement due à une négligence de la part de la marque lors de la préparation des produits en amont, hein, au niveau des usines, enfin des chaînes de production des produits, notamment des pizzas. Il y a eu des alertes qui ont déjà été effectuées dès le mois de mai 2021. C'est-à-dire quand même longtemps avant que le scandale n'éclate.
Près de 6 mois avant le début du scandale.
Par des employés de l'usine.
Et rien n'a été fait.
Et malheureusement, rien n'a été fait.
Des alertes qui sont remontées aux autorités ?
Alors des alertes, notamment, je pense, au niveau de la hiérarchie, au niveau de l'entreprise même, et probablement peut-être aussi au niveau des autorités. Mais rien n'a été fait. Et c'est pour cela qu'on arrive malheureusement à ce drame.
Vous dites qu'il faut que les alertes soient suivies des faits et que les contrôles soient améliorés, qu'on ne se contente pas des autocontrôles qui sont faits par les entreprises elles-mêmes.
Oui.
Parce que c'est ce qui se passe actuellement.
Oui, malheureusement, il y a les autocontrôles, mais ça ne suffit pas. Il faut un véritable contrôle sur le terrain, intensifier les contrôles et pour que ce genre de drame ne se reproduise plus.
Ce sont des drames isolés ou vous pensez que c'est plus systémique, que c'est le fonctionnement de l'agroalimentaire qu'il faut réviser en France, mais partout en Europe, parce que ce n'est pas un problème franco-français ?
Oui, ce n'est pas un problème franco-français. D'ailleurs, une des pizzas qui est justement mise en cause est notamment produite en Italie. On a une autre gamme, mise à part celle de la Fresh Up, dont on pense qu'elle a été fabriquée à l'usine de Caudry, mais on n'a pas encore de certitude. On peut aussi citer aussi d'autres scandales qui ont suivi, notamment avec Kinder, la marque Ferrero. Donc voilà, on pense que ce n'est pas, c'est pas un cas isolé. Je pense que c'est un problème sociétal, oui.
C'est-à-dire que c'est un scandale dont on ne soupçonne pas encore tout à fait l'ampleur. Vous estimez qu'il y a beaucoup plus de cas que ceux qui sont répertoriés actuellement ?
Oui, on a la certitude qu'il y a beaucoup plus de cas.
Beaucoup plus ?
Oui, les cas se déclarent au fur et à mesure. Tout le monde n'a pas forcément souhaité faire la démarche peut-être d'entreprendre une procédure à l'encontre de la marque, mais nous sommes persuadés
qu'il y a plus de cas. Parce que les cas, ils sont répertoriés par Santé publique France, mais vous pensez qu'il y a des cas qui n'ont pas été répertoriés par Santé publique France ?
Oui, d'ailleurs, nous sommes sollicités jour après jour par de nouvelles potentielles victimes de cette consommation.
Avec des cas graves, hospitalisés ?
Avec des cas graves, des cas plus ou moins graves, tout dépend des victimes, mais il y a aussi des cas graves, oui, tout à fait.
Il y a 2 semaines, nos reporters Iben Raïs et Mickaël Robert avaient rencontré une de vos clientes, Sonia, la mère de Mila, 7 ans, qui a passé 2 jours à l'hôpital. Et elle raconte, et c'est ce qui pose aussi question, les méthodes de Buitoni qui l'avait contactée avec un objectif, tenter d'accéder au dossier médical de sa fille.
Jeudi matin, j'ai reçu un appel masqué, j'ai quand même répondu. C'était une dame du service consommateur de Buitoni qui m'a demandé de lui relater les faits. J'ai répondu gentiment à ses questions.
C'était un petit peu intrusif, ces questions ?
Très intrusive, voilà. C'est vrai que elle me dit que c'était pour le bien de l'enquête. Avant de conclure, elle m'a juste dit que pour le bien de leur enquête encore, ils aimeraient accéder au dossier médical de notre enfant. Et qu'il fallait notre accord, donc il nous rappellerait dans les prochains jours pour avoir le nom du médecin en question.
Le fait que Buitoni joigne directement des proches, des victimes pour accéder au dossier médical, ces méthodes, ça vous étonne, ça vous inquiète ?
C'est étonnant, inquiétant. On parle d'un géant de l'agroalimentaire, on parle de Buitoni, de Nestlé, le groupe Nestlé. Le secret médical est un secret absolu. Même si ma cliente avait donné son accord pour que, un médecin, que le médecin traitant puisse donner des informations médicales, il n'aurait pas eu le droit de il n'aurait absolument pas le droit de le faire, quoi qu'il arrive. Donc le secret médical est absolu, quoi qu'il arrive, même avec l'accord du patient.
En revanche, les informations médicales, avec le secret médical, elles sont primordiales pour constituer le dossier. Là, vous tentez de constituer pour chacune des familles avec un médecin, justement, l'aide du docteur Charles Legrand. Il faut que là, les familles puissent vous livrer, vous donner ces informations qui sont primordiales.
Tout à fait. Il est nécessaire, indispensable qu'un cabinet d'avocats soit aussi accompagné, travaille en collaboration avec un cabinet d'expertise médicale pour pouvoir étudier les dossiers au cas par cas et pouvoir constituer un dossier pour avancer dans le cadre de la procédure.
La fille de Sonia avait consommé une pizza de la gamme Four à Pierre, c'est peut-être la seconde gamme à laquelle vous faisiez allusion à l'instant, une gamme qui n'a toujours pas été retirée de la vente. Pour le moment, on dit que les autorités sanitaires n'ont pas confirmé le lien direct entre ces pizzas et la contamination. Vous, vous réclamez le retrait d'ores et déjà de cette gamme, de cette seconde gamme ?
Alors, le retrait, pour l'instant, on ne sait pas encore.
Oui.
Il faut quand même qu'on pousse les investigations, mais il faut qu'il y ait un véritable, justement, un travail d'investigation qui soit fait et poussé pour voir si il y a bien eu une mise en cause réelle, un lien avec la consommation de cette gamme de produits de la marque Buitoni.
Dans une tribune qui est parue ce jour sur le site du journal Le Dimanche, vous interpellez Emmanuel Macron, les autorités, parce que les familles souhaitent que la procédure s'accélère, des familles qui attendent également plus de transparence de la part de Buitoni. Vous dénoncez la gestion de la crise par ce géant de l'agroalimentaire ?
Oui, effectivement, nous avons interpellé le chef de l'État afin qu'il puisse prendre des mesures d'urgence, afin qu'une véritable politique de sécurité alimentaire éco-responsable tournée vers l'avenir se fasse. C'est indispensable.
Vous pensez que les autorités n'ont pas pris la mesure de ce qui s'est passé là au...
Les autorités au sanitaires ont participé, enfin, ont quand même fait un travail efficace. Là, on voit quand même qu'il y a des remontées d'informations en temps réel, donc c'est efficace. Mais je pense que c'est surtout, par exemple, les acteurs de l'agroalimentaire qui devraient accroître leur politique de contrôle et d'une meilleure gestion de leur politique de contrôle dans le domaine de l'hygiène au sein de leur production.
Sous la pression de l'État français. Merci, maître Richard Legrand, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonsoir. Mathieu, le chanteur Florent Pagny donne des nouvelles de son état de santé.
Et elles sont plutôt bonnes. Sur Instagram, il y a 4 mois, Florent Pagny annonçait être atteint d'un cancer des poumons. Il renonçait alors à sa tournée des 60 ans, affaibli et rendu chauve par les traitements. C'est sur Instagram encore qu'il a donné des nouvelles rassurantes à ses fans.
Bonjour à tous. Bon, je viens vous donner un peu de mes nouvelles. Vous avez remarqué que je n'étais pas très réseaux sociaux, donc je ne vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et mon histoire. Mais bon, maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui, j'ai un peu changé de look, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Dès les 2 premières chimio-immunothérapies, ma tumeur, qui était grosse comme un kiwi, s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance.
Depuis l'annonce de sa maladie, les téléspectateurs de The Voice avaient pu le voir en bonne santé, mais vous le savez, c'était des émissions enregistrées. Samedi dernier, il était apparu ainsi, crâne rasé. On avait aussi vu Florent Pagny, là c'était au mois de mars, lors d'un concert auquel il avait tenu à participer, concert organisé par France Télévisions en soutien à l'Ukraine.
Si une chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire, peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il
Dans sa vidéo Instagram d'hier soir, Florent Pagny remercie aussi tous ceux qui l'ont soutenu. Bien sûr, il promet une tournée, alors non pas pour ses 60 ans, cette tournée qu'il a annulée, mais pour ses 61 ans l'an prochain.
Je vais finir les The Voice, je vais finir la chimio. Ensuite, j'irai me renforcer, me remplumer. Et puis, si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine pour terminer ce que j'ai commencé. Donc, ça s'appellera la tournée des 61. Donc, merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé. Et puis, on se retrouve très vite.
Florent Pagny, qu'on espère retrouver sur scène très bientôt.
La marque Apple annonce la fin de l'un de ses produits iconiques.
Oui, on ne va pas m'accuser de faire de la pub puisqu'ils arrêtent de le produire. L'iPod, objet de technologie d'abord, de culture pop aussi, le baladeur numérique qui a sans doute changé notre consommation de la musique, qui nous a en tout cas permis il y a une vingtaine d'années de nous promener avec toute notre discothèque. Apple annonce la fin de la production de l'un de ses objets emblématiques, lancé, oui, je vous le disais, il y a plus de 20 ans. Sur scène, regardez Steve Jobs et ses fameuses keynotes. Alors là, c'était avant les iPhones, hein. Regardez, en 2001.
There it is, right there. So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket.
Ah, moi, c'est un gros.
On trouvait ça tout petit. Je ne sais pas si c'est une pub pour le jean ou pour l'iPod en lui-même. En fait, c'était assez épais. C'était il y a 20 ans seulement. Là, à l'écran, vous avez l'objet originel. Un simple rectangle blanc, le premier iPod lancé en 2001, le premier d'une longue série, en fait, parce qu'ensuite, les as du marketing vont lui donner plein de noms. iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Touch, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
iPod
le
mini.
Mini, j'allais l'oublier. Plein de formes et plein de couleurs. Sur une vingtaine d'années, Apple affirme en avoir vendu près de 450 millions. Un demi-milliard de baladeurs numériques, ils seront toujours vendus jusqu'à épuisement des stocks. On en fabrique
plus. Ah bah donc
plus.
Tu fais la pub alors.
Camille Schmitt et Audrey Payard. Oui, peut-être qu'ils vont devenir collecteurs. Vous en avez un chez vous encore dans votre
Moi j'en ai un.
J'en ai un.
Mais un des tout premiers.
Vous l'utilisez encore?
Non. Mais on peut téléphoner avec maintenant.
C'est ça. Camille Schmitt et Audrey Payard sont interrogés.
Un Nokia si vous voulez.
Julien. Un spécialiste de câble FM TV, Raphaël Grabli. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ce soir? Pourquoi est-ce que l'iPod est iconique?
Ah oui,
l'iPod a totalement bouleversé l'industrie musicale. Donc c'est la première fois qu'on va écouter de la musique avec une immense quantité de morceaux à disposition. Ce qui est assez incroyable, c'est que sans iPod, en fait, il n'y a même pas d'iPhone. C'est-à-dire que quand Steve Jobs, en 2007, présente l'iPhone pour la première fois, il dit c'est un mélange d'un iPod, d'un téléphone et d'un outil pour accéder à Internet. Et donc en fait, finalement, sans iPod, il n'y a pas d'iPhone. Et donc finalement, en fait, il n'y a presque pas de smartphone tel qu'on le connaît actuellement. Et donc finalement, un monde sans iPod, ce serait peut-être un monde qui serait un peu différent aujourd'hui.
Pas d'iPhone, pas de smartphone tel qu'on les connaît aujourd'hui sans iPod. Donc pour preuve, regardez cette image. Enfin, en fait, il y avait un prototype qui ressemblait à ce qu'aurait pu être un des premiers iPhone. C'est jamais sorti et c'est issu de l'imagination de fans d'Apple. Voilà ce qu'aurait pu donner le premier iPhone avec la molette originelle
De l'iPod.
De l'iPod. Finalement, ils ont préféré les écrans entièrement tactiles que nous connaissons aujourd'hui.
Un monde sans iPhone, un monde Page sans pistolet. Mathieu Béliard. La fin d'un running gag. Nous sommes mercredi. Est-ce qu'enfin on a assisté cet après-midi au dernier jour du dernier Conseil des ministres?
Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, il faut le savoir, Louis Amar et Anaïs Recouli se rendent inlassablement tous les mercredis dans la cour de l'Élysée. Et surprise, même annoncée comme telle par de nombreux journalistes, ce n'était jamais le dernier Conseil des ministres.
Ça va vous manquer le Conseil des ministres? C'est pas fini? Monsieur Blanquer, monsieur Djebari, ça va vous manquer le Conseil des ministres? C'est pas terminé?
Est-ce que c'était le dernier aujourd'hui? Vous savez pas? Vous serez là la semaine prochaine, monsieur Dupond-Moretti? Est-ce que c'était le dernier aujourd'hui? Est-ce que c'était votre dernier conseil? On vous revoit la semaine prochaine?
Mais bon, maintenant, Emmanuel Macron a été réinvesti, président. On nous dit que Jean Castex resterait en place au moins jusqu'au 13 mai, c'est vendredi. Était-ce alors le dernier conseil des ministres, la suite des aventures de Louis Amar et d'Anaïs Recouli dans la cour de l'Élysée?
Bonjour, monsieur Giraud. Est-ce que c'était le dernier cette fois?
Il semblerait.
Vous serez où la semaine prochaine? Monsieur Blanquer, bonjour. C'est quoi le livre que vous avez?
C'est la dernière édition des Fables de la Fontaine pour les CM2.
C'est pour les vacances?
Oui, c'est un livre pour les vacances pour chaque CM2 de France.
Pour les CM2 ou pour les vôtres?
Les CM2.
Bonjour, monsieur Djebari. Ils vont vous manquer, vos collègues?
Le président a eu un mot de remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex.
On comprend bien, entre les lignes de votre dernière réponse, qu'il s'agissait donc du dernier Conseil des ministres. Si vous deviez faire une fiche de poste pour votre successeur, Qu'inscririez-vous comme conseil pour être un bon porte-parole du gouvernement ?
Je ne ferai pas de fiche de poste. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait me concernant, mais je me souviens quand j'ai été nommé en juillet 2020, certains m'ont dit que j'allais beaucoup souffrir, que peut-être j'allais même pas survivre. Moi, je veux dire que j'ai eu un très grand plaisir depuis près de 2 ans maintenant à occuper cette fonction.
Un petit côté fin de colonie de vacances, promis, on s'écrira, on restera en contact, mais personne n'a dit formellement c'est le dernier.
Bah voilà.
Ouais, donc ça se trouve, c'est pas le dernier.
Je voudrais voilà, juste préciser que peut-être qu'on enverra Louis Amar dans la cour de l'Élysée la semaine prochaine.
Tellement que ce soit pas le dernier conseil des ministres de Jean Castex, c'est qu'il y retourne mercredi.
À force, il va prendre un coup de soleil, hein, c'est bien de soleiller là-bas.
D'autant qu'il y a des températures estivales. Encore aujourd'hui.
Oui, 25 degrés à Paris cet après-midi, jusqu'à 30 degrés à Toulouse, Strasbourg. Je ne vous fais pas toute la carte de France ce matin. C'était le gros titre et la même phrase partout.
La même.
Aujourd'hui, la journée la plus chaude de la semaine.
En ce mercredi, qui est la journée la plus chaude de la semaine.
Et il va faire encore plus chaud au cours des prochaines heures, ce mercredi étant la journée la plus chaude.
La journée la plus chaude.
Il fait beau, il fait chaud. C'est même la journée la plus chaude.
C'est la journée la plus chaude de la semaine entre le centre-est et le nord-est.
Oui, en effet, Romain, c'est la journée la plus chaude.
C'est la journée la plus chaude de la semaine.
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ?
La journée la plus chaude.
Ibane Raïs et Maud Touré ont profité de cette journée ensoleillée. Mercredi, jour des enfants, qui plus est, Babette, pour aller à la rencontre de Parisiens transformés en plagistes.
Ça donne envie de faire quoi, là, cette ambiance, cette atmosphère ?
Sortir les shorts, les claquettes, faire un beau pique-nique.
Moi, ce que je préfère faire dans la journée, c'est jouer au foot et aller jouer dans l'herbe. Puisqu'il fait chaud.
Pas de boulot, donc ouais, c'est journée farniente et on se la coule.
Ça donne envie de rien faire. Rien.
Il y a du soleil et on n'a pas besoin de l'auto.
Là, je viens de faire une petite sieste après une petite terrasse.
J'ai travaillé ce matin et du coup, on s'est retrouvés entre copines pour partager un petit pique-nique et se poser au parc, puisque ça y est, les beaux temps arrivent.
C'est agréable, on a juste envie de chiller, d'être allongé sur les pelouses.
L'objectif, c'est quand même de...
De bronzer, de profiter de ces premiers rayons de soleil.
Moi, je me suis déjà mis de l'eau dessus.
Ah ouais ?
Oui, je me suis mis de l'eau sur mon visage.
Pourquoi ?
Parce que j'ai très chaud.
Non, il n'y avait pas les jets d'eau au parc André Citroën puisque la fontaine est en travaux, m'a précisé Iban Raïs, qui a pu croiser un homme qui n'a pas voulu être filmé, mais qui télétravaillait en fait en bronzant, en réunion visio sur son ordinateur. On comprend qu'il n'avait pas voulu être filmé.
Ça devait se voir sur sa visio.
Il n'a pas la caméra.
Il a bien cadré. Cadre, ou alors il avait coupé la caméra.
C'est obligatoire, vous allez le voir.
Le télétravail, justement. La Commission nationale informatique et liberté alerte, les employeurs surveillent leurs salariés en télétravail de trop près.
Et la CNIL observe quelques dérives en dressant son bilan de l'année 2021, des dérives autour de la surveillance, oui, des télétravailleurs chez eux. C'est le troisième motif de plainte auprès de la commission. Camille Schmitt et Audrey Payas ont interrogé Marie-Laure Denis, c'est la présidente de la CNIL. Elle détaille les pratiques interdites.
Alors on a pu constater que des employeurs demandaient à leurs salariés de rester constamment, par exemple, en visioconférence ou d'être surveillés en permanence par le biais de webcams ou des dispositifs audio, des micros. Ou bien alors on a pu constater que certains déployaient des enregistreurs de frappe pour s'assurer que les employés étaient vraiment sur leur clavier en train de faire quelque chose. Ou encore leur demandaient de cliquer sur une application régulièrement. Voilà. Donc une surveillance parfois quasi permanente.
Alors il faut dire qu'en 2020 puis 2021, le télétravail a été parfois mis en place à la hâte. On a aussi demandé à Marie-Laure Denis s'il faut envisager de légiférer, de réglementer plus strictement.
Moi, je ne suis pas convaincue qu'on ait besoin de textes supplémentaires. Il faut bien voir que la conciliation entre le droit de l'employeur d'encadrer et de contrôler l'activité de son salarié et la protection de la vie privée, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent au bureau et en télétravail. C'est-à-dire que le principe cardinal, c'est la proportionnalité. Mais je pense qu'il faut, dans ce contexte un peu particulier, plus de dialogue sur ces sujets. Et en cas de problème, saisir la CNIL.
Pour faire simple, comprenez bien qu'à la maison, ce sont les mêmes règles qu'au bureau. Vous ne devez pas accepter plus de surveillance sous prétexte de télétravail. Mais en cherchant dans nos archives, avec l'équipe du 5 sur 5, on a aussi trouvé des télétravailleurs qu'il fallait peut-être surveiller un peu mieux.
Vous êtes resté à Paris, contrairement aux millions de Parisiens qui appuient, vous non. Si le chat vient d'être expulsé.
They will scale up the program if it is successful, guys.
Very cool. We love it, Will. Thank you.
I would be surprised if they do. Pardon me.
J'ai un de mes fils qui arrive.
Mon fils, j'arrive après, je suis à la télévision.
Les joies du direct.
Now embracing this.
why apologize for my tax tip? Why are you not doing this by default? Rocco, could you kill them?
En plus.
Ça s'appelait Rocco. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Bon, cette semaine, il faut aussi souligner un autre effet délétère de la pandémie et du télétravail. Sur les télétravailleurs
en
particulier.
Pardon, les souvenirs, c'était pourquoi pour
le télétravail.
Pour le télétravail.
Nous étions en présentiel pour ce qui,
pour ce qui vous concerne. Un message clair. Votre voiture n'est pas une annexe de votre bureau. Vitesse, comportements à risque et téléphone en particulier en 2020, 356 personnes sont mortes dans un accident de la route lié au travail. Accidents de la route qui sont la première cause de mortalité au travail. 8 salariés sur 10 reconnaissent avoir des comportements à risque. Vous travaillez clairement au volant. 56% des salariés utilisent leur téléphone en conduisant. Au-delà de la sécurité, petit rappel, c'est 3 points et 135 euros d'amende. Même en kit main libre, on a tendance à regarder tout droit, moins dans les rétros, et on met 50% de temps de plus de réaction. Enfin, envoyer un SMS en conduisant multiplie par 3 le risque d'accident. Sachez, je l'ai appris à cette occasion, que les enquêteurs ont droit de consulter l'historique d'appel auprès d'opérateurs pour vérifier si une personne n'était pas sur son téléphone au moment d'un accident.
Ouais, une déclaration sur l'honneur ne suffira pas. On termine avec une autre alerte. Adressée aux automobilistes.
Oui, celle de la Fondation 30 millions d'amis sur Twitter. Un chevreuil ivre s'est aventuré en zone habitée dans l'heure. Il venait de consommer des bourgeons euphorisants. Prudence sur les routes. Alors, le tweet date un peu, mais en fait, c'est assez récurrent au printemps. Ça fait beaucoup d'informations dans une seule phrase. Oui. Un phénomène régulier chaque printemps, apparemment, des chevreuils ivres. Alors, j'ai fait mes petites recherches dans les archives et j'ai trouvé bien meilleur que moi pour vous expliquer ce qui se passe avec ces animaux au printemps, notre désormais expert des bourgeons euphorisants.
Comment est-ce possible ? Eh bien, les cervidés raffolent des bourgeons, qui sont très nombreux en cette période. Le souci, c'est que les bourgeons contiennent des substances alcaloïdes et en fermentant dans leur abdomen, le sucre contenu dans les bourgeons provoque l'ivresse chez les chevreuils. Résultat, un apéro bourgeon. Voilà, l'animal se sent bien, sa vision est altérée, il ne ressent plus aucune notion de danger ni de la peur des hommes.
Il est désinhibé,
et complètement, et il se retrouve à aller les saluer en zigzagant dans leur jardin, que j'imagine la scène. Allez, Bambir, mets-moi un bourgeon, seigneur.
Toute ressemblance avec des personnes ayant existé, tout ça, c'est fortuit. Les recherches ont continué. On a travaillé sur ce dossier, Babette. Les chevreuils en état d'ébriété, c'est documenté. Celui de l'heure n'a pas été filmé, mais voilà ce que ça donne sur un autre spécimen il y a quelques années seulement. Ce chevreuil, bon, là, c'est normal qu'il s'inquiète, mais quand on le voit sauter sur la haie, on se dit qu'il y a peut-être un petit truc qui ne va pas. Hein ? Si vous aimez les bêtes sauvages un peu pompettes, et je vois que c'est le cas, on a aussi un écureuil qui plane un peu après avoir mangé des poires fermentées. Ça sent la fin de soirée chez Tic et Tac. Et au moins, vous avez un dossier complet sur les animaux de la forêt en état d'ébriété.
T'en as un rave.
Il a l'air heureux.
Les bourgeons, il a l'œil glauque un peu.
Il réfléchit à sa vie.
Les bourgeons euphorisants, ça marche sur les hommes ?
Vous voudriez essayer ? Je vais m'enseigner.
Dans les films de Cronenberg, il doit y avoir des...
Il doit y avoir quelques bourgeons euphorisants. David Cronenberg, ce formidable, extraordinaire réalisateur qui revient à Cannes avec un film. Il n'en avait pas tourné depuis 8 ans. Il revient avec un film qui est en sélection officielle à Cannes. Mais d'abord, il passe par le plateau de C'est à vous. Il est notre invité dans un instant aux côtés de Bernard Werber. Mémoire d'une fourmi, paru le 28 avril dernier. Merci beaucoup, maître, d'être revenu sur le plateau de C'est à vous. Restez avec nous, c'est le dernier dîner du président Lescure avant son départ pour Cannes. Donc Pierre, on en profite jusqu'au bout. Il y a un brochet.
Vous faites comme Cannes.
Ah ben, il y a un énorme brochet pour vous. A tout de suite pour le dernier dîner du président avant son départ à Cannes.